I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Positron. Vous le savez, Positron, c'est l'émission qui vous donne envie, c'est le zapping de bons plans, c'est les trois trucs cool en 20 minutes. C'est une émission qui vous donne des conseils de produits culturels, qu'ils soient des films, des séries télé, des livres, des albums de musique, tout ça. Si vous vous embêtez un peu, vous écoutez un Positron et vous avez plein de trucs à faire. Je suis toujours avec mes deux camarades, Philippe Gage.
Ouais.
Et, oula, tu m'as un petit peu fait peur. Et Cédric Bonnet.
Ouais.
Oui. Bah, d'accord. J'ai cru que t'allais aussi faire une sorte de.
Mais non,
de
mais il y a que lui qui aime les films d'horreur et les trucs qui font peur. Moi, tu sais, c'est les bisounours.
C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on va sans plus tarder se lancer dans les recommandations, n'est-ce pas? Enfin, à moins que vous n'ayez quelque chose de particulier à dire pour ce Positron 6.
Je voudrais lire quelques passages de la Bible en cet instant solennel.
Écoute, alors t'appuies allez, sur le bouton, le petit micro, tu vois, qu'il y a sur Skype, là.
Au commencement.
Et voilà. Alors, moi, je me lance tout de suite. Au commencement était Of Monsters and Men. Ah merde, j'ai dit le nom du groupe déjà parce que j'avais préparé tout un truc pour vous dire, pour vous expliquer comment j'avais découvert ce groupe. Et en fait, je vais le dire quand même, mais la chute sera moins bonne, hein, vous allez comprendre. L'année dernière, à la fin de l'année, il y avait le top des albums d'iTunes. Et je me suis dit, comme la découverte de musique est un petit peu un truc difficile ces jours-ci, même si on a énormément de musique disponible à la pointe de nos
doigts. Il n'y a que les Daft Punk dans le top.
C'est ça. mais donc, je me suis dit, je vais regarder tout le top, je vais écouter les samples de chacun. Des trucs qui me plaisent et parmi ceux que enfin des trucs qui pourraient me plaire et parmi ceux qui me plaisent quand je les écoute la minute et demie d'extrait, eh ben je vais en acheter quelques-uns. Et là, j'ai découvert donc un groupe avec un groupe qui a une sorte de style indie rock, indie pop, indie folk, avec un chanteur et une chanteuse. Et beaucoup de gens auraient pu penser à The XX. Et ben en fait, non, parce que The XX, c'est aussi un groupe qui a eu énormément de succès. C'est l'un des albums que j'ai acheté à ce moment. J'ai un petit peu moins aimé The XX et Of Monsters and Men, j'ai adoré. Leur album s'appelle My Head is an Animal, Ma tête est un animal, et c'est un groupe islandais. Moi, j'aime énormément plusieurs groupes de rock indépendant. Mon style de prédilection depuis peut-être, je ne sais pas, 6-7 ans, c'est le rock indépendant. Il y a des groupes absolument formidables au Canada, étonnamment, je ne sais pas pourquoi. Genre 70% des groupes que j'aime sont canadiens. Il y a des groupes en Islande comme Sigur Rós, qui n'est pas du tout du rock indé, hein, qui est un truc complètement à part, mais Sigur Rós que les gens connaissent peut-être. Et Of Monsters and Men, qui est donc islandais, comme je le disais. Pour la blague, je vais vous lire les noms des membres du groupe. Il y a la chanteuse et guitariste Nana Bridis Hilmardottir, le guitariste et chanteur Ragnar Ragi, et là il y a une lettre que j'arrive même pas à lire, mais ça doit être genre, je sais pas, Sorlarsson,
ouais.
Le guitariste Brynjar Leifsson, le batteur Arnar Rosenkrantz Ilmarsson.
Ils ont des noms locaux, Sons, quoi. Hein.
Oui, un petit peu. Et celui que je préfère, c'est le bassiste Christian Paul Christiansson. Donc, les mecs, ils s'appelaient, la famille s'appelait Christiansson. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'appeler leur fils Christian. C'est fort, quand même.
C'est pas mal.
Ma femme est en train de se prendre la tête dans ses bras. Enfin, sans doute parce que...
T'as bien prononcé
Ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais c'est quand même tous leur nom, c'est Son.
C'est Ericsson, mais... c'est des Suédois, quoi.
Et on va avoir droit à une scène de ménage en direct, j'adore. Oui.
Ah, ça, c'est énorme.
Si son père s'appelle Ragnar, il s'appelle Ragnarsson.
Oui, mais c'est le fils
de Ragnar. Mais
alors,
c'est quoi son nom de famille, Christian?
Avec Pen, les apéricubes, là. Allez, Ragnar, tu prends bien un apéricube au saumon.
Il n'a pas de nom de famille.
Mais on est toujours dans Positron, là.
Bon, bah, bref.
Je crois pas.
Bref, Of Monsters and Men, vous l'aurez compris, c'est un groupe différent. C'est un groupe, enfin différent, j'exagère peut-être un petit peu, c'est un groupe de rock indépendant. Et ils ont, comme je le disais, les deux chanteurs, enfin une chanteuse et un chanteur. Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui connaissent, Stars ou même The XX, dans ce sens où c'est assez à la mode en ce moment, ces groupes avec deux chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse, parce que ça crée une sorte d'harmonie assez enivrante, assez enchantante, on va dire. Et ils ont des mélodies et des ambiances qui sont un petit peu mélancoliques, mais à la fois très très belles et très presque oniriques. C'est vraiment le terme que j'utiliserais pour décrire leurs morceaux. Et c'est des choses qui sont pas forcément... les paroles ne sont pas des paroles complètement logiques, mais c'est plus créer une ambiance qui crée des images. Il parle, par exemple, le premier morceau de My Head is an Animal, le titre dont je parle, s'appelle Dirty Paws, et c'est l'histoire de la reine des insectes qui est partie pour attaquer les autres habitants de la forêt et qui a reçu l'aide des animaux qui ont les pattes dans la terre et qui ont donc les pattes sales, les Dirty Paws. Et c'est que des histoires comme ça, un petit peu étranges, oniriques, qui vous font... J'irai pas jusqu'à employer le cliché de dire qu'elles vous font voyager, mais ça, peut-être qu'on pourrait dire que ça vous fait... Même pas vraiment rêver, mais si je dis ça vous endort, ça va vous faire marrer parce que ça veut dire que c'est chiant, mais c'est presque ça. On a l'impression de passer en transe presque quand on écoute cette musique. C'est pas du tout genre techno, genre de la musique un petit peu électronique ou ce genre de choses. C'est vraiment l'écriture, la mélodie, la manière dont c'est orchestré qui vous met dans cette sorte d'état un petit peu second, qui vous transporte. Plus que qui vous fait voyager, c'est qui vous transporte. Mmh. Comme on le disait à l'épisode précédent, je pense que c'est pas forcément pour Philippe qu'on voit comment t'avais dit, comme un viking barbu énervé, non ?
Poilu.
Poilu, c'est ça, pardon. Je pense que c'est pas forcément pour toi, parce que t'es plutôt métal, hard rock, énervé.
Oui,
non, c'est l'image que j'ai, je me trompe peut-être.
Airborne, c'est pas le truc le plus calme de la
Terre. Certes, mais je suis quand même curieux de découvrir ce truc-là qui m'a l'air complètement extraterrestre.
C'est pas aussi extraterrestre qu'un truc comme Sigur Rós, qui parle carrément pas. Sigur Rós, c'est aussi des Islandais. Ils parlent aucune langue qui existe. Ils parlent leur langue inventée qui s'appelle le Hoplandish dans la plupart de leurs albums. Mais bon, là, c'est pas à ce point-là. C'est beaucoup plus classique. C'est du rock indépendant, du rock. Oui, c'est ça, du rock folk indépendant. Mais bon, c'est vraiment à écouter. Moi, j'irais pour les fans de musique de rock indé ou de folk. C'est vraiment à écouter. Pour moi, c'était une vraie découverte. Je l'ai encore plus aimé que The XX, qui était le groupe dont tout le monde me parlait l'année dernière. Donc, si vous le connaissez pas, My Head is an Animal. Ma tête est un animal. Excellent album à découvrir. Très, très, très chaudement recommandé par Patrick. Voilà. Cédric, de quoi tu nous parles donc ?
Ah, je vais parler d'une série télé.
D'accord.
Une série télé, alors je te dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde.
D'accord.
Alors pas parce que c'est violent ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que c'est une série d'ambiance un peu molle. Mais moi, c'est un truc qui me parle, ces ambiances, tu sais, où il pleut tout le temps, où c'est une enquête de police assez lente, où tu sais, c'est pas toujours des mecs qui courent avec un flingue à la main.
Je dis encore que c'est pas pour moi, ça va pas, je vais mal le prendre.
Ah non, je le dis pas du tout.
Je vais mal le prendre.
Enfin, je sais pas, t'étais fan de Hooker ou pas?
Mais ouais!
Ah bah alors c'est peut-être pas pour toi.
J'ai des posters dans ma chambre de Hooker.
Mais quand il est en Capitaine Kirk ou en Hooker? Donc, c'est une série qui se passe à Seattle. Donc, c'est pas réputé pour ses grandes plages de sable fin, sur un fond de campagne électorale, en fait. Et il y a deux inspecteurs.
Tu veux pas donner le nom ou...
De quoi?
Le nom.
De la série, c'est The Killing. Mais alors, ouais, la version US, pas la version...
Ouais, c'est un remake d'un truc suédois, non?
Oui, c'était suédois, je crois.
Je sais plus.
Mon oui, c'est suédois, c'est suédois.
C'est ça. The Killing. Et donc c'est la version US hein, dont je parle.
Danois, d'accord. Ma femme me dit danois.
Danois.
Ah, oui, pardon.
Oui. Parce que la version danoise est encore plus lente et contemplative.
D'accord.
Donc, bon, je l'ai essayé, c'est bien aussi, hein, mais il parle danois et c'est pas très pratique. Du coup, t'es obligé vraiment de bien suivre et c'est compliqué.
Okay.
Donc, bref, moi, je parle de la version US. Donc, deux inspecteurs, Linden et Holder, qui, en fait, vont enquêter sur un meurtre qui à l'origine, semble... Enfin, t'as l'impression que ça va être vite résolu comme histoire. En gros, on retrouve le corps d'une adolescente dans le coffre d'une espèce de limousine noire qui est jetée dans un lac. Et donc, cette fille qui s'appelle Rosie Larsen. D'ailleurs, sur toutes les affiches de The Killing, on voit à chaque fois qui a tué Rosie Larsen. Et donc, le problème, c'est que la voiture dans laquelle a été découvert le corps... C'est une des voitures qui sert à la campagne de Darren Richmond, qui est un conseiller municipal, qui est candidat à la mairie de Seattle face au maire sortant. Bon, l'histoire, en fait, elle se concentre sur les deux enquêteurs qui, pour une fois, il n'y en a aucun des deux qui est sain. Dans le sens où, tu sais, toujours dans ces espèces de couples de flics où t'en as un qui est un peu le repère de l'autre et tout ça, tu vois. Là, tu sens que les deux ont un problème avec leur passé et même des fois leur présent. Et ils sont pas du tout tout blancs, ils sont pas tout noirs. Il y a aucun des personnages en fait qui est tout blanc et tout noir. J'ai cru à un moment que j'avais trouvé qui avait tué Rosie Larsen. Et en fait, dans le dernier épisode, je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté.
Mais en fait, c'est toute la saison est basée. Toute la saison, même
saison 1,
après.
Saison 2. En fait, c'est saison 1, saison 2, et tu as la réponse à la fin de la saison 2.
D'accord. C'est tout sur cette enquête unique.
Ouais, la saison 1, saison 2, c'est que sur cette enquête. Il y a une saison 3 qui vient de sortir, qui est pas trop mal, mais c'est une autre enquête. À la limite, vous n'êtes pas obligé de voir la saison 3. Vous pouvez faire juste saison 1, saison 2, et vous avez en gros un arc, comme on dirait dans les comics, complet. Ouais. Et c'est juste, je trouve que c'est super bien joué. C'est Mireille Enos, là, celle qui joue la femme de Brad Pitt dans World War Z, je crois. Je suppose que c'est sa femme. J'ai pas vu le film, mais je l'ai vu dans la bande-annonce.
Je me souviens pas de l'actrice.
Bref, qui joue Sarah Linden et Joel Kinnaman qui joue Stephen Holder. Stephen Holder, et c'est pour moi cette série, elle fait partie de mes grosses découvertes quand je l'ai vue la première fois, et je me suis dit waouh, j'avais envie de voir la suite tout le temps, parce qu'il y a toujours un cliffhanger en fin de série. Et tu te dis, enfin, c'est une série feuilletonnante, hein, donc vous pouvez pas regarder les épisodes dans le désordre. Et à la fin de chaque épisode, t'as envie de voir la suite. Et l'ambiance de cette série, la musique, je la trouve magnifique. La musique de cette série, et en plus ce temps pluvieux, un peu, les images sont très froides en fait. Les mecs sont toujours trempés, et tu sens la fatigue s'installer. Et une espèce de lassitude aussi pour les personnages d'essayer de trouver ce qui se passe et tout ça. Ils vont jusqu'à se détruire, on le voit, hein. Ils vont jusqu'à se détruire eux-mêmes pour essayer de résoudre cette enquête. Et il y a toute une intrigue politique derrière qui est vraiment top. Je trouve que c'est super bien écrit et j'ai adoré vraiment la saison 1 et la saison 2. La série avait été annulée à la fin de la saison 2 et finalement elle a été repoussée pour la saison 3. Je suis mais absolument fan de The Killing US, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est regardez-la cet automne. La regardez pas maintenant quand il fait chaud, il fait beau et tout. Mettez-vous dans l'ambiance du truc, quand il va pleuvoir tout le temps et tout.
Bah écoute, l'épisode 6 est diffusé à partir du 5 septembre ici de Positron, je veux dire. Donc si ça se trouve, l'été sera complètement fini.
Regardez-le à ce moment-là, c'est génial. Enfin, moi, je suis absolument fan.
Du coup...
Alors, je recommande pas à tout le monde parce que c'est un peu mou, tu vois, c'est une enquête, machin et tout ça. Mais il y a quand même des choses, il se passe des choses, quoi, quand même. C'est pas trop contemplatif non plus, hein. Mais tu suis l'enquête vraiment avec eux et t'as envie de savoir, quoi.
D'accord. Parce que moi, je crois que j'en avais entendu parler, j'ai regardé le premier épisode Et j'avais trouvé ça un poil, j'avais pas trouvé ça mauvais, mais quand même un poil chiant. Est-ce que bah, il faut que je me, c'est le genre de série où il faut quand même rentrer dans le truc, regarder deux, trois épisodes pour rentrer dedans, ou si j'ai trouvé le premier épisode un peu chiant, c'est pas la peine d'insister?
Oh, je me souviens plus trop du premier épisode, donc je pourrais pas te dire. Je sais que moi, j'ai pas accroché au premier, par
D'accord.
contre. Il m'a fallu, ouais, c'est, je crois que j'ai accroché dès le second. Au premier, je D'accord. me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal, c'est quoi la suite?
D'accord.
Et j'ai quand même voulu savoir. Et à partir du 2, c'est là où à chaque fin d'épisode, t'as un cliffhanger. Et moi, j'ai trouvé. Enfin, après, peut-être que c'est moi. Hein, je...
Mais
j'ai vraiment aimé cette série. Quoi.
D'accord.
Enfin, je trouve que c'est partie de ces séries adaptées, là, pour le coup, de séries ben, nordiques. Et je ouais. trouve que ces gens-là. Alors, la série originale aussi est bien. Hein, mais je trouve que ces gens-là font de superbes séries avec Real Humans et tout ça. Enfin, c'est.
D'accord. Ah.
Ouais, oui, c'est clair qu'il y a une vraie. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'on ne les découvre que maintenant, parce que
voilà.
Ou si ça fait plusieurs années que la Scandinavie déjà produit des séries de très grande qualité, mais c'est vrai que depuis à peu près 4-5 ans, là, ça n'arrête pas, quoi. Hein.
Mais
c'est
voilà.
peut-être avec
et
la
là,
avec la mode de avec l'arrivée de Millennium qu'on a commencé à s'y
oui,
intéresser
c'est ça.
Un petit
mais
peu
c'est exactement
plus, peut-être.
Ça. Et peut-être, The Killing US, elle a un avantage, c'est qu'elle trahit pas le matériau d'origine. Dans le sens où, ok, c'est pas les mêmes acteurs et tout ça, forcément, ça se passe pas au même endroit, mais tu ressens exactement la même ambiance pesante et tout ça. Et encore une fois, on n'est pas dans une série policière pampan, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Où j'attrape les méchants et je les mets en prison. C'est pas du tout ça.
Série
et...
policière pampan.
Oui, je prends
beaucoup
mon pistolet et je dis pampan. Tu vois.
D'accord.
Voilà.
Enchanté, moi c'est John.
Voilà.
Et ben justement, John, pendant que t'es en train de cracher tes tripes, si tu peux nous parler un petit peu de ta recommandation. J'ai oublié de remercier Cédric au passage.
Oui,
merci,
et alors, Cédric. Je dois dire que Cédric l'a très bien défendu et m'a donné envie de reprendre la série parce que moi aussi j'avais été refroidi par le premier épisode que j'avais trouvé justement complètement décalqué sur son modèle danois et c'est ça qui m'avait ennuyé moi.
Mais
bon,
ça change après. Vraiment.
D'accord. Eh ben écoute, j'essaierai de remettre.
Ouais, ça m'a donné envie aussi.
Alors moi, je change complètement d'ambiance et je parle d'une vieillerie. Alors quand je dis vieillerie, c'est pas si vieux que ça puisque c'est un film qui date de 98.
Je l'ai jamais vu.
qui s'appelle donc The Big Lebowski, hein, le bien nommé, n'est-ce pas, le film des frères Coen, qui est sorti en Blu-ray chez Universal en juillet dernier. Et à cette, bon alors moi je l'ai trouvé à 10 €, j'ai foncé dessus, donc j'ai trouvé à 10 € au magasin de DVD du MK2 Bibliothèque à Paris. Et j'ai redécouvert le film. J'ai vraiment redécouvert le film que je n'avais pas vu depuis sa sortie en salle, que j'avais trouvé fun, mais assez, sans plus finalement, qui m'avait laissé relativement indifférent. Et le film a bâti vraiment sa propre légende au fil des années. Moi, on m'en parlait tout le temps comme d'un chef-d'œuvre, etc., etc.
Ouais, et... Il a vraiment un statut de film culte.
Ah, il a un statut de film culte total. Et j'ai compris enfin ce statut de film culte vraiment sur le tard en revoyant ce Blu-ray quand je l'ai visionné, donc. Et en effet, tu vois, comme quoi c'est vraiment marrant là. Le rapport que tu as à un film, comment il peut évoluer vraiment d'une année à l'autre, d'une période à l'autre. Et vraiment, voilà, moi j'ai vu ce film donc à sa sortie en salle en 98, il m'a pas plus que ça.
C'est parce que tu l'as vu en salle, là, tu l'as vu chez toi, tranquille, sur ton home cinéma, c'est bien mieux, Philippe, tu vois.
attention, ne m'entraîne pas sur ce débat-là. attention. Et donc là, en effet, je le revois 14 ans, 15 ans plus tard. Et je me suis poilé, mais vraiment du début à la fin. Alors je sais, j'ai l'air de découvrir la Vierge, quoi, on va me dire, mais tant pis, j'assume. Je reconnais, il n'y a pas une ligne de dialogue qui ne m'a pas fait hurler de rire en revoyant le film. Il y a une interprétation, que ce soit Jeff Bridges, John Goodman qui joue son gros copain avec lequel il va jouer au bowling, et John Turturro et Steve Buscemi, ils sont tous mais à pleurer de rire. Donc l'histoire en gros, c'est Jeff Bridges incarne une sorte de train de savate qui habite à Los Angeles, qui s'appelle Jeff Lebowski, qui est surnommé le Dude, et qui passe son temps, ses journées, à traîner chez lui en espadrille avec son peignoir, aller se chercher de la bière au supermarché du coin et à faire des parties de bowling avec ses copains incarnés par John Goodman et Steve Buscemi. Et un jour, il y a des mecs qui frappent à sa porte, qui lui butent la gueule parce que soi-disant Il leur doit de l'argent, mais en fait, ces mecs-là l'ont confondu avec un autre gars qui s'appelle Jeff Lebowski aussi. Et quand le pauvre Lebowski, Jeff Bridges, va vouloir connaître le fin mot de l'histoire, il va mettre le doigt dans un engrenage un peu farfelu. Et en fait, le scénario du film est une sorte de... Tu t'aperçois petit à petit que c'est une espèce de grand foutage de gueule. Et qui, en fait, est vraiment très, très drôle. Enfin, tout ça est un prétexte pour les frères Cohen à dresser une galerie de portraits d'abrutis complets, tous autant qu'ils sont.
C'est vraiment les spécialistes de ça.
Ouais, c'est vrai. Et moi, parfois, je leur en veux pour ça, parce que je trouve que parfois, t'as l'impression que les frères Cohen regardent un petit peu trop leurs personnages, tu vois. Ils jouent un petit peu au plus malin à chaque fois à écrire des films remplis de personnages dont ils ont l'air de se moquer en permanence. Au bout d'un moment, j'aime pas trop la démarche quand elle ressemble un peu trop au procédé. Mais là, il se trouve que sur The Big Lebowski, c'est vraiment très, très drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, putain, mais je me suis poilé, mais d'une force. Et vraiment, John Goodman, il aurait mérité l'Oscar. Il avait été nommé à l'Oscar pour son interprétation. Il l'a pas eu, hélas, en 99, pour son interprétation de Walter, le pote de Lebowski. Mais vraiment, il l'aurait mérité parce qu'il est à hurler de rire. Et d'ailleurs, le cynisme du film qui parcourt le film du début à la fin est même tempéré, je pense, par une... Il y a une scène finale qui m'avait complètement échappé quand j'avais vu le film en salle. Et il y a une scène vers la fin, je ne vais pas la décrire, revoyez le film, où là, tu as vraiment l'impression qu'il y a un petit peu d'émotion, où les Cohen arrêtent de faire les petits malins et il se passe, un beau moment d'amitié qui se passe entre les personnages de Jeff Bridges et de John Goodman et qui est assez émouvant, assez touchant. Ça dure quelques secondes, c'est pas très long, mais pour moi justement, ça suffit à donner la petite touche d'humanité qui arrive qui complète à merveille tout le cynisme ambiant très très drôle du film. Voilà. Donc le Blu-ray coûte pas cher si vous l'achetez dans les bons endroits. Moi, je le recommande. Pour moi, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Je l'ai passé à mon père, qui est pas spécialement fan des frères Cohen. Il a adoré. Et en plus, il y a quelques bonus vraiment sympas sur le Blu-ray que moi, j'avais pas vu. Je sais pas si c'était s'ils existaient sur les éditions DVD précédentes. Mais en tout cas, sur le Blu-ray, il y a quelques bonus de making-of assez intéressants. Et surtout, il y a un bonus vraiment rigolo sur tout le phénomène qu'a suscité le film depuis sa sortie. Et il y a notamment aux États-Unis, évidemment, il y a qu'aux États-Unis que ça peut se faire, un truc comme ça. Il y a un fan club gigantesque des fans de The Big Lebowski qui organise chaque année des conventions. Enfin, une grande convention où les mecs
arrivent. Bowling, quoi.
Non, mais c'est exactement ça. Où les mecs arrivent tous, ils se sapent tous, soit directement en peignoir comme le personnage de Jeff Bridges, soit ils se déguisent dans l'un des personnages du film. Et le documentaire est assez intéressant. Il te montre vraiment comment les mecs ont réussi à tous se fédérer et à développer des trésors d'imagination sur la façon de célébrer le film. C'est très rigolo et très très bon moment en revoyant le film. Donc je conseille, si vous l'avez pas, ou si vous l'avez pas vu, ou si vous l'avez déjà vu mais il y a longtemps, je conseille vraiment de le voir ou de le revoir.
Je l'ai pas vu et ça fait longtemps que je me dis il faut que je le voie.
Tu vas te poiler.
Moi je suis comme toi, Philippe. Je l'ai vu à sa sortie, donc il y a très très longtemps, et j'avoue que je reste aujourd'hui un petit peu étranger au culte qui est voué au film. Peut-être que je vais le revoir effectivement pour au moins comprendre. Et puis c'est presque un phénomène culturel, quoi. Il faut l'avoir vu. C'est une question de culture générale à ce niveau.
Ah ben t'as des t-shirts The Big Lebowski. Ouais. Enfin c'est vrai qu'il y a eu c'est un film qui a drainé au fil des ans. Pas tellement à sa sortie, parce qu'à sa sortie, le film n'a pas beaucoup marché. Il s'est pris des critiques un peu tièdes et il a vraiment bâti sa popularité au fil des diffusions en télé, de la redécouverte en vidéo. Et aujourd'hui, c'est un vrai film culte. Et moi, je trouve que c'est totalement mérité. Franchement, Patrick, revois-le. Encore une fois, c'est ça qui m'a marqué, c'est que chaque dialogue de ce film, dans chaque scène, mais il y a une perle dans les dialogues. C'est vraiment... Et c'est très très drôle. Et c'est tout
vendu, Philippe. Oui, je le regarderai. Ça marche. Voilà. Super. Donc, écoute, merci donc Philippe de Big Lebowski pour tout le monde.
Je l'ai bien recommandé positronné pour tout le monde.
Complètement. Il est positronné à fond, jusqu'au fond. Et donc c'est la fin de notre émission. On va se retrouver évidemment dans 2 semaines avec un upload, si vous écoutez upload entre les deux la semaine prochaine, upload et puis si vous on croise pas les flux, donc vous n'aurez pas upload sur le flux de Positron évidemment, Mais bref, ça sera dans deux semaines pour le nouveau Positron. En attendant, Philippe et Cédric, où peut-on vous retrouver pour varier les plaisirs? Je vais commencer par Cédric cette fois.
Ouais, alors vous pouvez me retrouver sur geeking.fr et sur Twitter, @CédricBonnet, tout attaché. Et en magnifique. Minuscule.
En minuscule, c'est important. Oui. Philippe, où te retrouve-t-on?
Alors sur Twitter, on peut me retrouver en suivant mon compte @JohnPlisken. On peut me retrouver de temps en temps, ma plume lamentable, sur le Daily Mars, qui est le site que j'ai cofondé avec Dominique Montet. Et je m'occuperai à la rentrée, mais alors là, il faudra vraiment arriver
excuse-moi,
à chercher.
Excuse-moi, le Daily Mars, le nom exact, c'est thedailymars.com.
Alors oui, alors moi je dis The Daily Mars. Il se trouve que l'adresse est www.dailymars.net.
C'est ça, d'accord.
Et il y a beaucoup de gens qui parlent du site en disant directement Daily Mars. C'est marrant, en France, on a un petit problème avec le « the ». Et moi, j'essaye désespérément de l'imposer sur le Daily Mars en disant le Daily Mars ou the Daily Mars, mais les gens en général disent directement Daily Mars. Donc voilà. D'accord. Et bref, et je m'occuperai également de, je serai auteur sur la série, sur une émission consacrée au cinéma qui s'appelle Frisson Break à la rentrée sur Ciné Frisson, mais qui s'appellera plus Frisson Break. Il me semble que ça va s'appeler Le Grand Frisson. Voilà.
Bon, regardez la chaîne et puis quand vous voyez Philippe, vous arrêtez et c'est cette émission-là.
C'est ça, c'est moi.
Voilà. Super. Eh ben, merci à tous les deux. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouveau Positron. Et en attendant, ah oui, j'oublie, moi c'est Note Patrick sur Twitter, au cas où vous ne savez pas. Frenchspin.com pour venir commenter l'émission. Et on se retrouve donc dans deux semaines. On vous fait tous plein de bises. Et à ce moment, ciao, ciao.
Positron.
Sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.